Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, à 1h30 au nord de Toulouse, dans la belle ville de Cahors, doit se tenir le principal événement religieux de l'année 2019 dans le sud-ouest. Ici devraient affluer des milliers, voire même des dizaines de milliers de pèlerins. Dans la cité cadurcienne est exposée la vénération des fidèles, une relique supposée du Christ. Sa coiffe, une sorte de voile mortuaire, ici conservée depuis le 15e siècle. L'occasion de grandes festivités, d'un grand jubilé qui met toute la ville en émoi. Le jubilé des 900 ans de la cathédrale, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau, il y a du monde, allez, honneur aux dames. Marie-Madeleine Ré, vous êtes productrice de l'émission Art Sacré, sur Radio Présence Cahors, et bonne connaisseuse de l'histoire de la Sainte Coiffe, bonjour.
Bonjour à tous.
Jeanne Dumont, vous êtes coordinatrice de la Clé Église, on verra ce que ça signifie pour le 900e anniversaire de ce jubilé, bonjour.
Bonjour.
900e anniversaire de la cathédrale, pardon. Andrea Gandner, vous êtes la coordinatrice générale de ce jubilé du 900e anniversaire. Bonjour.
Bonjour.
Et Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
On va donc ce matin donc avec vous, ici en direct depuis Cahors. Merci de nous recevoir, nous les Toulousains, pour nous parler de ce grand jubilé. Alors peut-être une question d'ouverture, ça sera avec vous, Monseigneur Camiade. Quand je dis que toute la ville est en émoi, est-ce là un trait de journaliste ou est-ce que de fait toute la ville est mobilisée autour de cet événement au départ religieux?
Toute la ville, c'est peut-être toujours une exagération. En même temps, je pense qu'il y a énormément de monde qui est mobilisé. Quelqu'un me disait qu'il était allé la semaine dernière porter des affiches chez les commerçants, que partout il y a eu un excellent accueil. On sent que tout le monde, en effet, voit d'un œil positif cet événement qui doit effectivement attirer du monde sur Cahors, qui contribue à une belle image pour notre ville. Et du point de vue, évidemment, chrétien, je vois qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent. Tout le monde se sent concerné par cet événement. On en est heureux.
Vous étiez, il n'y a pas très longtemps, en assemblée plénière à Lourdes. Est-ce que certains de vos frères évêques vous ont parlé de cet événement, vous ont posé des questions autour de la Sainte Coiffe?
Ah oui, bien sûr. Même plusieurs évêques m'ont dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est la Sainte Coiffe? Parce que on n'en a pas tous beaucoup entendu parler jusqu'à ces dernières années. En tout cas, elle était un peu oubliée.
Alors justement, on va commencer par la Sainte Coiffe, parce que c'est vrai que c'est elle qui est à l'honneur tout au long de ce jubilé, et tout en fait tourne autour de cette Sainte Coiffe. Avant qu'on donne la parole à notre historienne avec des guillemets maison, Marie-Madeleine Ré, j'ai mis les guillemets Marie-Madeleine, hein. Monseigneur Laurent Camiade, quand vous êtes arrivé à Cahors, vous connaissiez l'existence de cette Sainte Coiffe, ou est-ce que comme beaucoup, vous avez un petit peu découvert cela?
Ah oui, tout à fait. Je vous dirais que quelques jours après ma nomination comme évêque de Cahors, il y a eu une tentative de vol de la Sainte Coiffe. Et on m'en a parlé, ça a été une des premières choses dont on m'a parlé quand je suis arrivé pour prendre contact avec le diocèse. Et alors évidemment, je me suis dit, mais la Sainte Coiffe, qu'est-ce que c'est que cet objet? Tout le monde a l'air de savoir ce que c'est. J'étais un peu étonné. Et du coup, m'étant documenté, j'ai compris. Et c'est ce qui fait que finalement, pour mon ordination épiscopale le 4 octobre 2015, j'ai demandé à ce que la Sainte Coiffe soit sortie du trésor de la cathédrale où elle était enfermée.
Ce qui n'était pas arrivé donc depuis...
Je ne sais pas depuis quand, mais depuis plusieurs décennies en tout cas. Voilà, pour la mettre donc au pied de l'autel, c'est la place des reliques, sous l'autel en principe, le jour de mon ordination épiscopale.
Est-ce que en introduction, c'est une relique supposée, on le verra après, est-ce que ça a quelque importance de préciser cela?
Alors, toute la question historique, il faudra voir, et puis on n'a pas forcément les réponses. Ce qui est sûr, c'est que c'était vénéré comme une relique, et comme effectivement ce linge qui couvrait la tête de Jésus au tombeau. Et donc beaucoup de processions, beaucoup de temps de prière ont eu lieu et beaucoup de bienfaits reçus du Seigneur ont été accordés avec la vénération de cette sainte coiffe à l'occasion de différents événements de l'histoire de l'Église sur plusieurs siècles. Peut-être depuis 900 ans, elle est vénérée dans la cathédrale de Cahors et amenée en procession, parfois à Rocamadour, souvent autour de la ville.
Alors on va raconter un petit peu l'histoire de cette relique. Il faut dire que de toute façon les reliques sont quand même en général presque toutes supposées, hein. Même quand on va en Terre Sainte, les guides passent leur temps à vous dire c'est une relique supposée, c'est le lieu dit. Il y a très peu en fait de reliques dont on soit parfaitement sûr. Ça c'est peut-être la première
précision
à apporter.
Mais quand on est devant 2000 ans d'histoire, c'est toujours difficile d'avoir toute la traçabilité. Après, bien sûr, le tombeau du Christ lui-même, il y a des parties qui ont été reconstruites, mais pourtant on défile, on est des millions de pèlerins à chaque année à venir visiter le tombeau vide. En fait, ce sont des moyens pour se rappeler, pour visualiser, pour prendre conscience de la réalité du mystère du salut. Le Christ est vraiment mort, il a été mis au tombeau, il a été enseveli, on lui a mis une coiffe sur la tête avec des rubans pour tenir son menton, comme on faisait pour tous les défunts à l'époque. Et donc réaliser cela, et réaliser que si on a gardé ce linge, c'est qu'il est ressuscité, il n'est plus au tombeau, sinon le corps aurait pourri avec tous les linges qui l'entouraient. C'est prendre conscience de cela qui est important. Prendre conscience du réalisme du mystère de la foi, du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus.
Alors Marie-Madeleine Rey, sur l'histoire de ce suaire, on reviendra peut-être avec vous, Monseigneur Laurent Camiat, parce que je crois qu'il y a des études scientifiques qui sont en cours pour contribuer à la datation de ce linge. Racontez-nous, j'ai cru comprendre qu'il y a deux traditions qui parlent de la venue de cette relique ici à Cahors, Marie-Madeleine Rey. La première, c'est que cette coiffe aurait été acquise par Charlemagne. Et puis, on a une autre qui parle d'un l'évêque Géraud de Cardaillac. Racontez-nous ces deux grandes traditions.
Voilà. Alors, on va passer très vite sur Charlemagne, parce que là, maintenant, il est acquis que ce n'est pas lui.
C'est une légende.
C'est une légende. Mais ça plaît aux Cadurciens. Donc, il y a même un tableau dans la chapelle axiale de la cathédrale qui raconte cet événement du don de la Sainte Coiffe à Saint Nonphèse, qui était un saint local. Mais ça, il faut l'oublier. Alors ensuite, nous passons à la fin du XIe siècle, avec Géraud de Cardaillac, qui est l'évêque de Cahors, et qui, vers les années 1080-1090, commence à construire une nouvelle cathédrale pour Cahors, sur un ancien sanctuaire carolingien. Il part ensuite à la croisade, à la première croisade, et il ramène de la première croisade, normalement, cette sainte coiffe. C'est toujours au conditionnel. Et évidemment, il continue à construire la cathédrale pour faire un bel écrin à cette sainte coiffe. Voilà ce qui est admis à l'heure actuelle, mais les historiens disent que la sainte coiffe n'est attestée dans les textes qu'au XVe siècle. Chacun...
Il y a un trou... De trois siècles.
Voilà.
Alors, on peut expliquer ce trou ou qu'est-ce que...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Or, en 1119, donc 900 ans, il y a 900 ans, le pape Calixte II était à Toulouse pour le concile et on vient le chercher de Cahors pour consacrer l'autel majeur de la cathédrale qui n'était pas terminé, il n'y avait que le chœur qui était terminé. Il consacre l'autel majeur et l'autel de la Sainte Coiffe. Donc déjà, là, il y a quand même quelque chose qui est attesté. Mais c'est remis en question à l'heure actuelle.
Alors, il y a des choses troublantes autour de cette Sainte Coiffe. Ce sont entre autres donc les traces de sang. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Ces traces de sang seraient, semble-t-il, à rapprocher de celles que l'on peut trouver sur le linceul de Turin. Il y aurait quelques correspondances entre ce que l'on voit sur cette Sainte Coiffe et ce que l'on peut voir sur le suaire de Turin. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, Marie-Madeleine Rey?
Alors, il est vrai qu'il y a des taches de sang sur la Sainte Coiffe. Seulement, à ma connaissance, elles n'ont pas été analysées. Le serait-elle que nous n'avons pas l'ADN du Christ, donc on ne saura jamais. alors, les parallèles avec le suaire de Turin, là, je ne peux pas vous en parler, puisque j'ignore la chose. Monseigneur, peut-être.
Monseigneur Locamiel, est-ce que vous avez des éléments? On trouve, en tout cas, sur le site du jubilé, on va dire des dessins avec cette sainte coiffe, et il y aurait, semble-t-il, des traces de sang, entre autres sur la joue, une partie de la joue de Jésus qui, sur le suaire, aurait été arrachée, et là, on retrouverait des taches de sang qui correspondent à peu près à l'emplacement.
Oui, alors il y a des publications déjà un peu anciennes qui répètent souvent les mêmes choses sur des analyses de ce type. Aujourd'hui, on a effectivement pu faire des relevés et c'est à l'étude, c'est vraiment tout.
Alors quand vous dites qu'on a pu faire des relevés, c'est qu'il c'est, semble-t-il, il y a quelques jours ou quelques 10 jours à peu près, il y a eu des relevés. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode?
Eh bien, en lien avec la DRAC, des professionnels, des spécialistes ont pu, en accord avec moi et en présence du chancelier, en présence aussi d'un comité scientifique auquel je participe avec quelques autres personnes. Un début d'étude a été réalisé, des relevés notamment de la description de cette sainte coiffe avec ses 8 couches de tissu, avec les différentes coutures, avec aussi des parties endommagées, avec une observation très détaillée de chaque millimètre de cet objet. Et déjà, ne serait-ce que l'observation est très importante, effectivement, pour voir où y a-t-il des taches. Alors, on voit des taches, est-ce que ce sont des taches de sang? C'est assez difficile de l'identifier aussi précisément. Enfin, on peut être très affirmatif, mais les scientifiques, en général, mettent beaucoup de conditionnels, posent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses. Voilà. Et donc, actuellement, on n'a pas encore les résultats, le dossier, les relevés détaillés de la description de toutes les couches de tissu, mais ce sera le cas dans quelques temps. Et puis, nous avons, on pourra peut-être savoir effectivement quelle est la nature de chacune des couches de tissu, de quel type de.
Mais Monseigneur Laurent Camiel,
il s'agit.
Juste à propos de ce jubilé, alors c'est vrai qu'on peut imaginer que ceux qui sont chrétiens convaincus seront touchés par la vénération de ce linge, de cette donc relique supposée. Quid de tous ceux qui sont, plus rationalistes et qui s'étonneraient qu'on le propose à la vénération des fidèles, un linge qui reste donc supposé, sur lequel il y a encore besoin d'analyse plus précise. Qu'est-ce que vous répondriez aux sceptiques, aux interrogatifs et à tous les rationalistes que compte notre société?
Alors, je les encourage à rester intelligents dans leur démarche et à poser des questions. Le culte des reliques traditionnellement ne s'est pas beaucoup inquiété de l'authenticité des reliques. Encore une fois, la relique était un objet qui nous rapproche de la personne à laquelle il se rapporte. Bon, s'il s'agit d'un tissu par exemple qui a touché un saint ou un tombeau ou un objet, il est vénérable, ce qu'on appelle alors des reliques de contact. C'est très étendu le culte des reliques. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une matérialité pour vénérer un objet qui nous aide à nous mettre en contact avec le mystère de Dieu, avec les mystères de la foi. Donc là, il y a une tradition de vénération que nous recevons. C'est pas nous qui avons fabriqué la sainte coiffe. Nous la recevons après des siècles et des siècles de vénération. Et finalement, nous essayons d'entrer dans cette tradition de foi, de vénération, en sachant que beaucoup de grâces ont été obtenues. Et bien sûr, nous cherchons aussi à savoir quelle est la vérité sur cet objet. On va pas la cacher. Tous les résultats que nous pourrons trouver, nous essaierons de les rendre. Ce sera toujours l'objet d'une interprétation, mais Nous essaierons d'en rendre compte, bien évidemment. Donc, je dis aux rationalistes que nous ne leur mentirons pas. c'est aussi le souhait, bien sûr, pourquoi le fait que ces études sont menées en lien avec les services de l'État, c'est aussi une manière de garantir
d'honorer
cela.
Donc cette...
Voilà, chacun essaie d'agir de manière objective. Mais voilà, tout ça n'enlève rien à la démarche de vénération, hein, qui est lié à une tradition et à une communauté de foi qui s'exprime à travers cela.
Alors, vous dites dans un mot que vous avez adressé à ce sujet, intitulé « Il vit et il crut », tiré de l'évangile selon saint Jean. Entre autres, ce mot, la vénération se distingue de l'adoration due à Dieu seul. Par ailleurs, la contemplation devient un acte religieux, seulement si l'on reconnaît la présence de Dieu ou l'origine divine en l'objet contemplé. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler donc de ce 900e anniversaire, de la genèse de ce projet et de la multitude des acteurs qui sont mobilisés à l'occasion de cet événement, puisque derrière les quatre clés, il y a quatre acteurs majeurs que sont donc l'État, la ville, l'Église et le monde associatif qui ici sont mobilisés pour ce 900e anniversaire. Ce Vivante Église ce matin, donc en cette semaine sainte, en ce mardi Cahors jubilé de sa cathédrale pour ses 900 ans, avec autour du plateau, donc pour nous en parler, Marie-Madeleine Ray, productrice de l'émission Art Sacré sur Radio Présence Cahors et bonne connaisseuse donc de l'histoire de la Sainte Coiffe dont on a parlé dans cette première partie, Jeanne Dumont qui est la coordinatrice pour ce 900e anniversaire de la Clé Église, Andrea Gandner qui est la coordinatrice générale de ce 900e anniversaire et Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors. J'aimerais dans cette deuxième partie d'émission que vous nous racontiez un petit peu la genèse de ces 900 ans. Je ne sais pas s'il faut à nouveau donner la parole à l'évêque ou puisque vous êtes la coordinatrice générale, Andrea Gandner, quand est-ce qu'on a commencé à parler de cette aventure des 900 ans ?
Alors, je pense que ça remonte à plusieurs mois, plusieurs dizaines de mois, voire même plusieurs années maintenant. C'est au départ parti de l'initiative du diocèse de Cahors, qui a donc vu arriver cette date clé des 900 ans de la cathédrale et qui s'est dit qu'il fallait absolument fêter ça. Donc,
les 900 ans, d'ailleurs, il faut préciser, c'est les 900 ans de la pose de la première pierre, c'est ça?
On date les 900 ans, alors pas à la pose de la première pierre, mais justement à la date à laquelle a été consacré le maître-autel de la cathédrale. Pendant plusieurs mois, le projet s'est construit plus sur quelque chose de religieux et spirituel. Et la volonté ensuite a été vraiment d'ouvrir cet événement à un événement de territoire qui toucherait vraiment plus que tous les paroissiens ou autres, mais toute une ville, tous les cadurciens, voire même les lotois.
Alors c'est vrai que c'est justement un peu la surprise hein, de cet événement, c'est qu'on se dit comment ils ont réussi des 900 ans donc de ce maître-autel ou de la présence de la Sainte-Coiffe à mobiliser toute une ville. Quand on parcourt le catalogue justement du 900e anniversaire, on sent que cela foisonne, il y a une multitude d'événements, on les citera au fur et à mesure peut-être de cette partie. Il faut quand même dire un mot aussi du père Ronan de Gouvello, donc curé de la paroisse cathédrale de Cahors, qui, avec la fougue qu'on lui connaît et l'enthousiasme qu'on lui connaît, a peut-être su aussi convaincre les différents acteurs, Monseigneur Laurent Camiade.
Ah, tout à fait, oui. D'ailleurs, bon, ça faisait partie de la mission qu'il a reçue quand il a été nommé curé de Cahors, de mettre en valeur la cathédrale et puis ce projet des 900 ans. Nous avions longuement parlé ensemble et nous étions vraiment sur ce projet qui devait associer à la fois la ville, l'État, le plus de monde possible. Parce que l'intérêt, ça paraît être un enjeu pastoral important pour Cahors, de recréer du lien.
Ça a été difficile de convaincre les autorités publiques, la ville, l'État de...
Non, parce que la ville déjà avait le désir de faire quelque chose. Ils avaient fêté les 700 ans du pont Valentré et l'approche des 900 ans de la cathédrale était pour eux une opportunité pour relancer une vision. Tout le défi, je pense, sur Cahors, c'était de faire quelque chose vraiment en synergie, de travailler ensemble. Voilà. Et c'est vrai que les qualités relationnelles du père de Gouvello ont fait que beaucoup de gens se sont mobilisés. Et maintenant, le projet est porté par plusieurs centaines de personnes. C'est une œuvre vraiment collective.
On va en parler, Andréan Kantner. Il faut dire un mot aussi d'une autre réalité à l'occasion de cet anniversaire. C'est la fameuse recherche d'un maître-autel. C'est comme une chasse au trésor, on va dire, qui a contribué à lancer l'événement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce maître-autel, éventuellement avec l'aide de Marie-Madeleine Rey et de cette chasse au trésor? Comment a germé cette idée et que s'est-il passé déjà?
Alors c'est un aspect qui attire la curiosité de nombreuses personnes.
J'ai vu beaucoup d'articles dans La Dépêche sur ce sujet en tout cas.
Oui, tout à fait. Puis on est contacté par de nombreux journalistes au niveau national autour de ça. Il se trouve qu'en fait donc la cathédrale a été construite autour de deux autels, dont le maître-autel, et que en 1580, lors de la guerre des religions, donc Marie-Madeleine, tu me coupes si je dis des bêtises, les Huguenots ont pillé plutôt la ville de Cahors et plus particulièrement la cathédrale et ont donc profité de tout ce saccage pour enlever les deux autels qui constituaient l'édifice. Donc ils sont partis sur des barques ou des petits bateaux sur la rivière du Lot pour les emmener au château de Sennevière, sauf que malencontreusement un des deux bateaux a sombré au fond du Lot et il portait donc le maître-autel.
Donc ce maître-autel que l'on cherche, alors il y a eu, je crois, même une ou deux expéditions, je sais pas comment il faut appeler ça, en fait des plongeurs ont essayé de retrouver ce maître-autel. Est-ce que vous pouvez nous raconter éventuellement ces une ou deux sorties dont on a pu voir quelques photos dans la presse?
Oui, alors c'est une dizaine de sorties en tout, ça s'est passé sur une dizaine de jours. Donc après avoir laissé germer ce projet et vraiment travaillé avec des professionnels du secteur, il y a deux phases de recherche qui ont été organisées en septembre et octobre pour justement aller chercher à l'œil nu ce maître-autel au fond du Lot. Donc les plongeurs se sont basés sur des écrits, plusieurs textes qui indiquaient où avait sombré plus ou moins le maître-autel. Donc ces recherches n'ont pas été concluantes.
Quelle est la profondeur à peu près, on sait ou c'est...
Je saurais pas vous dire sincèrement, c'est pas très profond. étant donné qu'il est possible d'y voir à l'œil nu, avec un peu d'aide de lumière, mais c'est pas très très profond. Cependant, il y a quand même le gouffre, qu'on appelle le gouffre de Galési, qui a été fouillé. Donc là, c'est plus simple, c'est plus profond. Je crois que ça doit être 12 mètres, mais étant donné que c'est de la pierre, en fait, au fond, il n'y a pas de sédiments ou autre, c'est beaucoup plus simple à repérer. Et donc, malheureusement, on n'a pas retrouvé le maître-autel pour l'instant, mais plusieurs trouvailles lors de ces recherches nous laissent penser qu'il pourrait être plus bas sur la rivière et laissent présager donc une deuxième phase de recherche.
Alors, Monseigneur Laurent Camiat, juste, on va pas passer l'émission sur ce maître-autel, mais dans un mot que vous avez adressé à l'occasion donc de ce 900e anniversaire, on a appelé perspective pastorale, vous ne balayez pas d'un revers de main cette histoire de chasse au trésor. Vous dites que cette quête de l'autel inspire les croyants et les non-croyants. Est-ce que c'est là aussi une métaphore un peu de la vie chrétienne, que de chercher un trésor enfoui qui est à portée de main, mais dont il faut se donner bien du mal pour le retrouver? Est-ce que c'est ce qui justifie pour vous qu'il ne faut pas seulement sourire de cette initiative?
En fait, j'avoue que j'ai été surpris de l'engouement autour de cette recherche d'autel. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et effectivement, je pense que cette idée de chercher un objet sacré, il y a quelque chose de mystérieux. Et je pense que ça rejoint la quête spirituelle qui est dans le cœur de tout homme. Nous cherchons tous quelque chose. Nous cherchons ce qui a du prix. Nous cherchons comment nous donner. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. Pour les chrétiens, c'est le lieu du don à travers la célébration de l'Eucharistie, du don que le Christ fait de sa vie. C'est le lieu où tout chrétien oriente lorsqu'il participe à la messe. Oriente le don de sa propre vie. On a tous ce désir de se donner, de servir à quelque chose, de donner quelque chose de nous-mêmes et aussi de découvrir, de comprendre.
Est-ce qu'on cherche tous un trésor quelque part? Est-ce que
peut-être
c'est ce qu'il
faut entendre? Peut-être, on cherche un trésor, oui. Et je pense qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont pratiquants, qui vont justement s'approcher de l'autel pour participer à l'Eucharistie. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui sont en quête spirituelle, qui se posent des questions, qui cherchent comment trouver une unité à leur vie, comment être libre véritablement. Il y a cette quête de l'âme humaine qui est extrêmement profonde, et peut-être que la recherche de l'autel exprime quelque chose de cela.
Alors, à propos du 900e anniversaire, donc il y a, on l'a dit déjà une ou deux reprises, de multiples acteurs qui sont mobilisés, en tout cas quatre grands acteurs, donc et cela donne quatre clés, l'Église, la ville, l'État, le monde associatif. Si on doit commencer par l'État et la ville, Andrea Gandner, ça veut dire quoi que l'État et la ville sont mobilisés autour de cela, hormis, on imagine, quelques autorisations préfectorales à demander?
Oui, alors bien sûr, il y a tout l'aspect administratif. Donc juste pour resituer, pourquoi ces acteurs ont été sollicités? Déjà, c'était vraiment pour élargir ce 900e anniversaire. Et puis aussi parce que la cathédrale, tout simplement, donc elle appartient à l'État. Elle
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Exactement, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Donc elle appartient à l'État, l'Église en est l'affectataire, et bien sûr, elle est au cœur d'une ville qui est la cité cardurcienne, enfin Cahors. Donc l'Église et la ville interviennent beaucoup, l'État et la ville, pour resituer, interviennent beaucoup, mis à part sur le côté administratif. Donc ils organisent plusieurs événements, nous aident, nous soutiennent techniquement, administrativement.
Il y a aussi des travaux de restauration à l'intérieur de la cathédrale qui
Exactement.
Sont en cours.
Exactement, alors il y a justement dans le cadre de la réintroduction de la Sainte Coiffe dans la cathédrale, il y a toute la chapelle d'Axe, donc en fait la chapelle qui se trouve pile en face quand on rentre dans la cathédrale, qui est en train d'être restaurée pour pouvoir accueillir comme il se doit la relique.
Donc ça, on imagine que ça a un coût, je ne sais pas s'il faut le donner, en tout cas l'État et ville mettent la main au portefeuille pour cet anniversaire.
Oui, tout à fait. Alors l'État de toute façon est très impliqué sur la cathédrale et investi, mais depuis des années, et puis même en dehors de ce 900e anniversaire, sur l'édifice pour lui redonner toutes ses lettres de noblesse, la magnifier. Et puis la ville, mais aussi investi beaucoup aussi, surtout cette année, dans le cadre du 900e anniversaire, et en train de revoir tous les éclairage qui est porté sur le bâtiment afin qu'elle soit beaucoup plus visible et que les cadurciens puissent y venir plus facilement avec plus d'aisance.
Alors le 12 mars dernier, c'est ça, hein, donc ouais. A été lancé ce 900e anniversaire. Il y avait beaucoup de monde dans la cathédrale, donc ouais. Il y avait aussi les autorités publiques, le maire de Cahors. Est-ce que vous pouvez raconter dire quelques mots sur ce lancement qui dit la mobilisation de tous ces acteurs?
Oui, alors ça a été un très bel événement, on a eu beaucoup de monde, on a même été surpris, mais c'était l'objectif, donc je pense que c'est un challenge relevé pour tout le monde. Donc c'était un moment très solennel en fait, où justement les quatre clés étaient réunies pour ouvrir officiellement les festivités. Donc on a changé l'aspect de la cathédrale, on va dire, pour qu'elle soit la plus ouverte à tout le monde. On a joué sur de l'éclairage, de la musique, des projections,
des danses aussi, j'ai vu. Non,
oui, il y avait des acrobates et puis un groupe de musique traditionnelle. Et donc la symbolique a été tellement forte qu'on a fait ouvrir un même coffret, donc le coffret du 900e aux quatre clés. Donc ce coffret, il avait la spécificité que il ne peut s'ouvrir sans que l'une des clés ne soit présente. Donc ça représente vraiment la collaboration et l'union de tous autour de ce 900e anniversaire.
Monseigneur Laurent Camiat, ça veut dire que vous travaillez main dans la main avec le préfet, le maire. C'est l'occasion aussi pour vous de les voir plus que de coutume et de nouer des liens. Je ne sais pas, de travail plus personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette relation?
Alors, on travaille effectivement en synergie. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on se voit tous les quatre matins. Il faut être, honnête. Et c'est aussi beaucoup Andrea qui fait le lien. Mais en tout cas, ça permet de grandir dans la confiance mutuelle, de se rendre compte, de réaliser les uns et les autres que nous avons. Bien sûr, chacun est à sa place. Hein. Le maire se prend pas pour le curé et le préfet non plus, mais on est là ensemble pour un projet qui profite à tous, voilà, qui peut faire du bien à l'ensemble, voilà. Alors du point de vue chrétien, qui est le mien et celui de toute la communauté catholique du Lot, c'est l'occasion de montrer un visage de l'Église ouvert et qui est aussi dans cette démarche de recherche spirituelle, et nous pouvons partager quelque chose de notre quête spirituelle, de notre recherche spirituelle.
On parle à ce sujet du tourisme spirituel. On sait qu'il y a un certain nombre de villes sanctuaires en France. Je crois que Rocamadour, donc, qui est aussi sur votre diocèse, en est une, de ville sanctuaire. Il y a évidemment le Mont-Saint-Michel, on pourrait en citer d'autres. Est-ce que pour vous ça a du sens, ce tourisme spirituel? J'ai souvenir du père Ronan de Gouvello, lorsqu'il était recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, qui disait quand même l'immense majorité des gens qui viennent à Rocamadour ne cherchent pas, enfin, ne sont pas d'abord dans une démarche religieuse, et pourtant, si on sait les conduire, ça peut être l'occasion d'un questionnement. Est-ce que vous y croyez à ce tourisme spirituel?
Alors l'expression tourisme spirituel, on comprend ce que ça veut dire. C'est un point de vue quand même, disons laïque, sur un comportement. On fait de la sociologie en disant, voilà, ce sont des gens qui font du tourisme parce qu'effectivement ils consomment des activités touristiques à partir d'une quête spirituelle ou d'une recherche de lieux spirituels, de lieux sanctuaires, voilà. Donc ça, c'est ce regard là effectivement, le regard que moi je peux avoir sur cette démarche là c'est pas forcément le regard sur le tourisme, mais c'est sur le fait que quand les gens ont du temps aussi, quand ils sont en vacances, quand ils sont un petit peu plus disponibles, ils ne se contentent pas d'activités de loisirs, mais ils aiment aussi approfondir le sens de leur existence, découvrir des choses qui ont du sens, et entrer aussi dans des sanctuaires, dans des lieux de prière, prendre du temps pour se poser, pour faire aussi un voyage intérieur et pas seulement un voyage à travers les moyens de transport.
Andrea Gandner, qu'est-ce que vous diriez sur ce thème du tourisme spirituel? Vous êtes là pour représenter, indirectement, les pouvoirs publics, puisque vous êtes la coordinatrice générale. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens aussi pour la ville, de favoriser ce type de tourisme?
Alors, je pense que c'est une belle opportunité pour la ville de Cahors, qui a un patrimoine historique, spirituel très riche, notamment par la Sainte Coiffe. Et au-delà de l'aspect spirituel, c'est aussi une chance pour nous de pouvoir faire rayonner le territoire par ces outils. Donc ça, c'est un peu moins glamour que beaucoup plus technique de parler de la Sainte-Coiffe et de la cathédrale comme ça, mais c'est aussi une autre réalité pour certains acteurs du territoire. Il y a des enjeux spirituels et puis il y a des enjeux un peu plus de dynamique locale autour de ça.
Alors qu'est-ce qu'il faut citer comme événement ? Parce que j'ai en face de moi le catalogue des 900 ans, on va donner les grandes dates. Hein. Le 5 mars c'était le grand lancement du 900, le 12 mars, ça devait être le 5 et ça a été le 12. L'anniversaire de officiel de la cathédrale, ça sera le 27 juillet. Avant le 27 avril, il y aurait eu donc la procession de la Sainte-Coiffe, procession donc dans la ville de Cahors avec l'occasion d'un parcours historique. De nombreuses intentions aussi à l'adresse de tous les cardurciens et puis au-delà, et à la clôture donc le 8 décembre prochain. Des événements, il y en a beaucoup, on va dire des événements religieux, des événements plus triviaux, comme un trail, comme je vois un jeu de piste dans la ville. Comment vous présenteriez, André Gordner, les grands événements? Est-ce qu'il y a différents types d'événements culturels, sportifs?
Alors oui, ça c'était la volonté de départ, c'était d'ouvrir le 900e. Donc un grand appel à projet a été organisé au mois de novembre pour appeler toutes les associations, les commerces, les institutions à proposer des animations dans le cadre du 900e. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un peu plus d'une soixantaine de manifestations sur tout le long de l'année. Donc le 900e, ça se déroulera du 12 mars donc jusqu'au 8 décembre. Donc on a le temps de célébrer cette cathédrale.
Et donc dans la cathédrale, il y aura énormément de visites, hein, visites guidées. Oui. Je vois les noctambules de la cathédrale. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y aura tout un staff qui accompagnera le public. Ça, on va dire, c'est peut-être un premier volet qui accompagne le volet spirituel, un volet culturel. Et après, c'est quoi ? C'est beaucoup de concerts aussi ?
Alors, on a beaucoup de concerts. On a des manifestations sportives, comme vous avez pu le dire, avec un trail, un jeu de piste, un rallye voiture. Enfin, pas, non, c'est pas une course de vitesse. C'est plus quelque chose d'une balade patrimoniale. On a pas mal aussi de théâtre, de spectacles. Vraiment, on a toute une diversité d'événements et on retrouve notamment pas mal de manifestations qui sont récurrentes sur le territoire et qui, pour cette année, se déclinent aux couleurs du 900e.
Voilà, et on comprend aussi au fil de ce catalogue, c'est l'occasion aussi de découvrir l'histoire de la ville, hein, de découvrir les différentes strates de cette longue et belle histoire. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour un volet plus pratique pour ceux qui voudraient vous rejoindre qui habitent dans le pays, qui voudraient vous donner un coup de main, parce que je crois que vous êtes à la recherche de bénévoles et d'ambassadeurs, et aussi pour tous ceux qui voudraient faire une démarche jubilaire. On peut espérer, on imagine que c'est pour cela aussi que l'Église se mobilise, qu'il y ait de nombreux pèlerins qui viennent en cette cathédrale pour venir ici prier et vénérer cette Sainte-Coiffe.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cahors et le jubilé de sa cathédrale, ses 900 ans, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en direct donc des studios de Radio Présence à Cahors. On remercie cette radio de nous accueillir, mais bon, on fait quand même partie du même groupe, de la même aventure, et autour du plateau, donc pour nous en parler, Marie-Madeleine Ray, productrice de l'émission Art Sacré à Radio Présence Cahors, Jeanne Dumont qui est coordinatrice pour l'église de ce 900e anniversaire, Andréa Gandner, coordinatrice générale de ce 900e anniversaire, et Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors, pour ceux qui nous prendraient en cours de route. Vous me disiez pendant la pause, c'est vrai que c'était difficile de faire le tri, donc il y a un certain nombre de grands événements. On recite peut-être rapidement les quelques dates clés. Donc le 27 avril prochain, une grande procession donc de la Sainte Coiffe dans les villes dans les rues de Cahors. Le 27 juillet prochain, ça sera l'anniversaire de la cathédrale. Et au long de ce 900e anniversaire, donc mise en valeur de chacun des siècles par des grands événements qui disent la réalité historique de cet anniversaire. Alors pour tout ça, on imagine que on a besoin de bras. C'est le moment pour vous, Jeanne Dumont, d'essayer de faire un appel au peuple, même si vous l'avez fait certainement en dehors de cette émission de radio. J'ai cru comprendre qu'il y avait différentes manières d'entrer dans cet anniversaire. On peut être bénévole, ambassadeur et même alors voilà que je ne retrouve plus ma fiche, mais gardien de la Sainte Coiffe, ou alors expliquez-nous les différentes manières d'entrer dans cet anniversaire.
Oui, tout à fait. Alors le plus gros besoin que l'on a actuellement, c'est pour la procession du 27 avril, puisqu'on attend énormément de monde dans les rues de Cahors. Nous avons besoin d'une grosse centaine de bénévoles. Nous sommes actuellement en plein recrutement.
Alors rappelez en deux mots ce qui va se passer le 27, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a une procession de la Sainte Coiffe dans les rues de Cahors, on a à la fois tout dit et rien dit.
Alors donc la Sainte Coiffe le 27 avril va être portée en procession depuis l'église Saint-Barthélemy jusqu'à la cathédrale, puis va en fait traverser tout le vieux Cahors jusqu'au Lot sur plusieurs kilomètres. C'est une procession qui demande déjà beaucoup de préparation.
C'est pas un défilé, c'est donc une procession
religieuse. Procession religieuse, tout à fait, mais qui est ouverte à tous. Et nous avons fait une énorme communication aussi bien au niveau diocésain, paroissial, etc., au niveau de l'église que du Lot.
Alors dites-nous en deux mots comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'en fait on s'arrête devant certains bâtiments clés.
Alors non, on ne s'arrêtera pas, ça sera une procession fluide, entre guillemets, mais effectivement on passera devant plusieurs bâtiments, devant plusieurs lieux chargés d'histoire dans Cahors, et des commentaires seront faits, des prières seront faites aussi.
En fait, donc commentaires historiques et prières, les deux.
C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est que la Sainte Coiffe, cette procession par la Sainte Coiffe, rejoigne chaque cadurcien dans la vie réelle de tous les jours. Voilà, donc il y a un énorme travail qui a été fait aussi bien au niveau historique que spirituel pour la préparer. Et donc les bénévoles sont nécessaires.
Alors les bénévoles servent à quoi?
Alors les bénévoles vont être nécessaires pour beaucoup de choses. Pour assurer déjà la sécurité de la procession, même si évidemment la police et tous les services de sécurité de l'État nous aideront, mais pour accueillir les pèlerins, pour tout le long de la procession, pour veiller au bon déroulement de la procession, ça sera le poste principal. Nous avons aussi besoin de beaucoup de bénévoles pour porter les bannières. 33 bannières ouvriront la procession. 33 bannières qui vont représenter les 33 instruments de la Passion, des bannières qui ont été...
J'avoue que j'ai appris à cette occasion qu'il y avait 33 instruments de la Passion.
Oui, mais... moi aussi, je vous avoue, mais...
Voilà, ça veut pas... Je dis ça sans ironie aucune, mais on imaginait que 2 ou 3 auraient suffi, mais 33, ça dit...
Donc effectivement, il y en a bien 33. Les bannières ont été créées, ont été totalement cousues par une petite équipe qui les a terminées. Elles sont prêtes, elles sont même installées dans la cathédrale pour attendre le jour de la procession. Il faudra donc 33 porteurs de bannières. Il faudra aussi des personnes pour encadrer les enfants qui vont ouvrir la procession. C'est un âne qui va ouvrir la procession suivi de tous les enfants de Cahors et alentour qui le voudront. Et nous avons aussi besoin de beaucoup de bénévoles pour l'accueil juste avant la procession. Le centre-ville sera fermé. Des parkings ont été organisés autour de Cahors. Il faudra du monde pour faire du fléchage humain, pour accueillir les pèlerins.
Alors votre jauge de bénévoles en est où? Vous en cherchez combien et vous êtes à combien là?
On en cherche 100 à 150 et on en est pour le moment, je pense, à une dizaine.
Donc, le besoin est énorme. L'appel est urgent.
Oui, c'est ça.
Alors il y a une autre manière, c'est d'être ambassadeur au long de ces 900 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous attendez des ambassadeurs? Vous en cherchez aussi 900. Racontez-nous un peu leur mission.
Alors les ambassadeurs, c'est très simple, ce sont des personnes qui voudraient papoter autour d'eux et annoncer le 900e anniversaire, parler de cet anniversaire, de ce jubilé, le proposer le petit
papoter, catalogue. On peut aussi en parler avec conviction, papoter ça fait un peu trivial si
tout
je peux me permettre.
Non, en fait c'est tout simple, hein. La mission des ambassadeurs est toute simple, c'est de faire connaître le 900e anniversaire le plus largement possible.
Donc Mgr Laurent Camiade rentre dans cette case puisqu'il en a parlé à la conférence d'évêques de France.
Ici, nous sommes ambassadeurs du 900e anniversaire. Dès que nous parlons du 900e anniversaire, nous sommes ambassadeurs. Et un petit pins créé par l'association pour être remis à tous ceux qui voudront en parler autour d'eux.
Voilà, il n'y a pas besoin d'être chrétien, on peut préciser
tout,
peut-être.
Non, non,
hein,
c'est vraiment ouvert à tous.
On peut être commerçant, on peut être...
D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de commerçants qui le sont. Et tous ceux qui sont enthousiastes de cet anniversaire peuvent le devenir très facilement.
Alors pour finir, parlez-nous de la garde d'honneur. Voilà, j'ai retrouvé, il y a une garde d'honneur donc, qui s'est créée autour de la Sainte Coiffe. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait un peu penser aux chevaliers du Saint-Sépulcre aussi.
Tout à fait,
expliquez-nous.
Tout à fait. En fait, la garde d'honneur donc, a été pensée pour protéger la relique pendant tout le temps où elle va être exposée. Donc elle est dans le cœur de la cathédrale jusqu'à la Pentecôte, date à laquelle elle sera réinstallée en principe, si les travaux sont terminés bien à temps, dans la chapelle d'Axe dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est en cours de restauration pour accueillir la relique. Et en attendant, donc, la Sainte Coiffe est exposée dans le cœur de la cathédrale. Et c'est donc cette garde d'honneur, ce sont des personnes qui vont se relayer toute la journée pour veiller sur la Sainte Coiffe.
Vous leur avez fait grâce de la nuit, alors c'est...
Oui, heureusement, finalement.
Aux horaires d'ouverture de la cathédrale.
Aux horaires d'ouverture de la cathédrale, tout à fait. Et en fait, donc ces personnes vont veiller sur la Sainte Coiffe, tout simplement une veille de sécurité, et aussi accueillir les pèlerins, éventuellement donner des explications sur la vénération, guider la vénération, puisqu'il y a quand même des jours où on va attendre beaucoup de monde.
Ça, c'est pour, on va dire, l'appel au peuple, donc bénévolat, ambassadeur, garde d'honneur, une manière donc d'accompagner et de servir à l'occasion de ce grand jubilé. J'aimerais qu'on parle un petit peu du parcours jubilaire. Mgr Laurent Camiade, on peut aussi donc venir des quatre coins de la région ou de la France pour faire un parcours jubilaire. Il y a une autre relique, décidément je me perds dans mes fiches, qui en région parisienne avait attiré il y a beaucoup de pèlerins à la plus grande surprise de l'Église et évidemment des médias. Vous allez m'aider et on peut imaginer que ça soit le cas aussi ici à Cahors. En quoi consiste cette démarche jubilaire ?
Eh bien, puisque nous fêtons donc les 900 ans de la cathédrale, le parcours jubilaire permet en déambulant dans la cathédrale. Sous les différentes coupoles et puis en allant jusque devant la Sainte Coiffe, en passant devant le Saint-Sacrement et en terminant auprès de la Vierge Marie, de vivre un parcours intérieur à partir de cette découverte du site. On peut dire c'est l'évangélisation par les pierres. En tout cas, tous les groupes qui viennent pourront suivre ce parcours jubilaire, même les individuels. Et il y aura des temps où le parcours est proposé, notamment le dimanche après-midi, de manière systématique.
En quoi consiste-t-il, si vous deviez nous aider ? Imaginons qu'on arrive dans la cathédrale, je suis pèlerin de Saint-Jacques ou pèlerin tout court, alors j'ai retrouvé, hein, c'était donc à la basilique Saint-Denis pour la Sainte Unique qui a donc été exposée, c'était en 2015 par le diocèse de Pontoise et qui a vu l'afflux de dizaines de milliers de pèlerins. Marie-Madeleine Ray, l'évêque vous fait signe, ce parcours jubilaire, imaginons que je suis pèlerin de Saint-Jacques surpris par cet anniversaire, quand j'arrive dans la cathédrale, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on m'invite à vivre ?
Alors, on vous invite à vivre ce fameux parcours jubilaire, qui est un parcours spirituel, qui est parallèle avec un parcours culturel proposé par la ville. Il se déroule en 7 étapes. Donc, nous rentrons dans la cathédrale, on accueille les pèlerins. Ils se munissent avant tout d'une musette dans laquelle ils trouveront un petit questionnaire, avec un crayon bien sûr, qu'ils rempliront au fur et à mesure des étapes.
Et questionnaire culturel ou
questionnaire spirituel ?
Spirituel.
Donc, au fur et à mesure de la déambulation, nous allons nous arrêter à l'entrée sous le tympan nord. Nous allons ensuite vers le massif ouest, ce que l'on appelle le massif ouest, c'est-à-dire la porte occidentale, où il y a une frise de la Genèse, racontant la Genèse, avec des peintures murales. Ensuite, nous arrêterons aussi sous la coupole, qui est illustré des prophètes, de certains prophètes et du roi David. Et nous parlerons de la parole de Dieu. Nous serons à côté de la chaire et nous regarderons aussi les vitraux contemporains qui illustrent les quatre évangélistes. Voilà pour la parole. Ensuite, nous passerons
Genèse, dans le... prophète, évangile. Pour l'instant, voilà. On est raccord avec l'histoire.
Oui. Ensuite, nous passerons dans le cloître où nous serons en présence de d'une scène de l'Annonciation avec une Vierge de l'Annonciation aux cheveux déployés et de l'ange Gabriel qui lui fait face. Voilà. Et nous déambulerons alors dans le cloître autour des péchés capitaux, des vertus et des sacrements qui sont les remèdes des péchés capitaux.
Quelle est la fine pointe ou on va dire le but de ce parcours jubilaire, Monseigneur Laurent Camiade? Est-ce que c'est de prendre un moment d'intériorité, de finir par une prière, que l'on soit on va dire croyant ou pas, cette fameuse prière du jubilé, on peut pas la citer à l'antenne, mais qui a été créée à cette occasion. Qu'est-ce que vous diriez pour les pèlerins plus ou moins pratiquants, s'ils veulent se lancer dans cette démarche, quel en est le but?
Ben oui, le but c'est de faire une démarche de pour se rapprocher du Seigneur, pour peut-être faire le point sur sa vie, là où on en est.
Donc ça veut dire qu'il faut connaître le Christ, alors à vous entendre, non pas forcément?
Pas forcément, je pense que tout le monde peut s'y prêter. Après chacun en retirera ce qui il y a pas d'obligation de résultat dans le parcours. C'est simplement être prêt à ouvrir son cœur et à vivre quelque chose de, voilà. Et ce qui est proposé également, c'est en arrivant devant la Sainte Coiffe, donc comme on le disait en début d'émission, de réaliser ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, qu'il a bien eu lieu, en tout cas de se figurer un peu comme les disciples au tombeau, Pierre et Jean. Quand Jean rentre dans le tombeau, il voit les linges restés au tombeau, dont le voile qui est le suaire de la tête du Christ. Il vit et il crut. Alors bien sûr, on ne peut pas obliger quiconque à croire, mais au moins en regardant la Sainte Coiffe, se laisser habiter par une expérience, de voir ce que ça produit en chacun de nous.
Eh ben merci beaucoup d'être venu ce matin ou de m'avoir accueilli ici à Cahors pour parler donc de ce 900e anniversaire, de ce grand jubilé. On espère, comme à la basilique Saint-Denis, que vous aurez autant de visiteurs que pour la Sainte Tunique du Christ qui avait été exposée en 2015 dans le diocèse de Pontoise. Pour finir cette émission, je rappelle donc on va dire les principaux rendez-vous le 27 avril prochain entre 15h et 18h, cette grande procession donc dans la ville de Cahors. Radio Présence vous accompagne. Mon petit doigt m'a dit que je serais sollicité pour cette occasion. Et si on devait donner encore une autre date, c'est le 27 juillet prochain, anniversaire officiel de la cathédrale. Rendez-vous est donné sur le parvis de la cathédrale. Andrea Gandner, peut-être pour finir, un site internet si on veut retrouver tout ça.
Alors c'est www.le900e.fr.
Voilà, www.le900e.fr. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Florian Osé. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.